Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 106. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine. Alors, c'est des mots que vous entendez chaque semaine, que ce soit dans un microbar, que ce soit dans un minibar, mais c'est parce que on est vraiment content de vous retrouver. Moi, en l'occurrence, chaque semaine, ça me fait vraiment plaisir de faire un podcast, tous les lundis. Donc déjà, je suis content et faire ça avec plaisir, c'est quand même top. Alors, podcast un petit peu différent d'habitude, il n'y aura pas d'actu, alors ça vous l'entendez assez régulièrement, mais j'ai une période, j'ai un début d'année moi qui est un peu le bordel, je ne vais pas vous mentir, et au moment où ce podcast sort, je suis à Prague, donc je ne suis pas du tout en France, et donc pour faire des podcasts, voilà, c'est pas possible. Donc je ne peux pas faire un podcast dans l'actu, donc ce podcast est enregistré en avance. C'est plus simple pour moi, ça me permet d'assurer plein de choses. Alors, il n'est pas enregistré énormément en avance, mais il est enregistré juste après le 105, pour tout vous dire. Donc toutes les actus dont j'avais connaissance et dont j'avais envie de parler sont sorties dans le microbar de la semaine dernière. Donc si vous voulez voir ou écouter des actus, c'est sur celui de la semaine dernière, et donc si vous voulez... Si je voulais réaliser un podcast dans les temps avec des sujets intéressants et tout ça sans courir, il fallait le faire un petit peu en amont et pour avoir le temps de le monter. Donc voilà, donc c'est un podcast sans actualité, mais on aura largement le temps de se rattraper la semaine prochaine. Si tout se passe bien, j'aurai le temps d'enregistrer, de monter avant la sortie du lundi. Croise les doigts, je serre les fesses, voilà. Mais vous inquiétez pas, en tout cas, on a quand même plein de choses à se dire, parce que vous avez vu la pochette. On va parler d'un jeu vidéo, et j'ai beaucoup de choses à dire sur le jeu vidéo. Juste avant, on va parler d'une série télé, où j'ai aussi quelques trucs à dire, assez rapidement aussi, mais voilà. Donc on va faire tout ça, j'ai plein d'aventures. J'ai hâte de faire l'apéro du minibar du mois de mars, parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de choses à raconter. Et le mois ne fait que commencer, donc ça va être compliqué d'attendre et de tout retenir aussi. et puis aussi, je me suis lancé dans énormément de choses différentes. Et j'ai le temps de rien, en fait. Vous savez, je m'en plains relativement toutes les semaines d'avoir les études d'un côté et la famille de l'autre. Mais je ne sais pas quelle idée m'a pris. Je me suis lancé dans des nouveaux jeux vidéo. Et avant de parler de jeux vidéo, j'aime bien aller assez loin dans le jeu vidéo, voir les finir. Parce que... Voilà, c'est toujours un peu... Récemment, j'ai entendu, par exemple, un truc tout bête, et ça m'a conforté dans ma philosophie. J'ai entendu des gens parler de Spider-Man 2, et j'ai entendu des podcasteurs dire de Spider-Man 2 en 2023 que c'était leur jeu de l'année. Et ces podcasteurs-là, ces gens-là, ont continué à jouer à Spider-Man 2, et finalement, dans la deuxième partie de Spider-Man 2, ils ont commencé un peu à ressentir le fait que c'était souvent la même chose, que ça se répétait pas mal... Alors moi, c'est quelque chose qui m'a... C'est un aspect qui m'a pas trop dérangé, parce que, voilà, mais qui m'a agacé, mais qui ne m'a pas cassé le jeu. Après, je l'ai fait à 100%, mais dont j'avais conscience, et j'en avais parlé rapidement, mais c'était souvent la même chose, et voilà, c'était déjà répétitif par rapport aux anciens jeux, et puis même dans le jeu, voilà, c'était un peu long. Et ces gens qui avaient dit « Ouah, Spider-Man 2, c'est mon jeu de l'année 2023 », ils commençaient à dire en 2024 « Ouah, si j'avais été un peu plus loin dans le jeu, je sais pas si je l'aurais mis jeu de l'année 2023 », et, enfin... C'est la preuve qu'un jeu, enfin une œuvre, il faut la critiquer, la considérer dans sa globalité. Je veux dire, on ne vient pas dire d'un tableau qu'il est beau ou qu'il n'est pas beau en ne regardant que la moitié. On ne suffit pas de regarder le début ou la fin d'un film pour dire que c'est un beau film. Pareil pour un album de musique. Enfin, je veux dire, on ne va pas écouter les 4 chansons du milieu d'un album de musique et se dire ouais, c'est l'album de l'année, ou les trois hits. Genre single à l'époque, qui sont sortis, et se dire bon, c'est 3 singles sur cet album là, oh, c'est l'album de l'année. Non, en fait, chaque œuvre, chaque production, qu'elle soit à titre commercial ou qu'elle soit à titre artistique, qu'elle fasse les deux, il faut la juger dans sa globalité, dans l'intégralité de ses aspects. Ils vont tous avoir plus ou moins de poids, mais ils vont tous avoir du poids. Je veux dire, un jeu vidéo, c'est des graphismes, une jouabilité, de la musique. Ça va être, vous en ai cité qu'une partie là, mais voilà, ça va être énormément de le doublage, la direction artistique, qui n'est pas les graphismes. Ça va être dans la jouabilité, ça va être ça, et ça va être encore enfin, la finition. Je veux dire, un jeu qui est buggé, il a beau avoir toutes les qualités du monde, s'il est mal fini, s'il est mal adapté, voilà, ça va impacter les choses. Et on ne va pas se mentir, voilà. Faut que j'aille au bout d'un jeu, que j'avance beaucoup dans un jeu pour en parler. Du coup, bah, ça prend du temps, forcément, et on est souvent peu dans l'actualité. C'est très très rare, à moins que je l'ai vraiment, c'est sur un jeu court et que je l'ai vraiment saigné très vite à la sortie, ce qui a pu arriver, mais c'est pas souvent. Mais voilà, donc du coup, moi quand je regarde une série, j'en rate pas 5 épisodes sur 8 et je vous dis, ouais, franchement c'est pas mal, j'aime pas faire ça, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'être déçu ou d'être encore plus happé et donc d'être encore plus enthousiaste à propos d'une œuvre. Et donc je me suis lancé dans des jeux qui prennent du temps. Je me suis lancé dans la relecture d'un comics qui prend beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de tomes, et que c'est un comics que j'avais déjà lu en grande partie, et je sais pas pourquoi, alors que j'arrête pas de me plaindre que j'ai pas le temps. Et on va pas se mentir, hein, je pense qu'on a tous un peu ce syndrome-là. Je n'ai pas le temps, je n'ai le temps de rien, je relis quelque chose que j'avais déjà lu. Et ça, je me trouve extrêmement smart, parce que je compare un peu mes souvenirs et tout ça, et je me rends compte à quel point ça m'avait marqué et que ça m'avait plu. Mais en même temps, je me rends compte que je suis un peu con parce que je m'inflige quelque chose que je n'ai pas le temps de faire normalement, voilà. Donc voilà, si vous aviez des questions à vous poser à propos de moi, sachez que je suis un peu con, mais que j'ai aussi conscience des choses et que j'ai envie de livrer des avis complets. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle parfois les choses sortent un peu en après, c'est la raison pour laquelle je n'ai certainement pas le temps de profiter autant que je voudrais de ma famille ou d'autres types d'activités, mais voilà, j'ai vraiment à cœur de réaliser tout le mieux possible. Et même si j'en parle mal, j'ai au moins la conscience de me dire, ok, ce film là je l'ai vu en entier, cette série là je l'ai vu en entier, ce jeu là je l'ai joué quasiment en entier. Voilà, ça permet comme ça d'avoir et donc ces comics là ces livres, je les ai lus aussi en entier. C'est l'idée derrière tout ça. Est-ce que c'est malin? Je ne sais pas, mais en tout cas déjà ça m'oblige à aller au bout des choses. Si j'abandonne un jeu, j'évite d'en parler, ou alors je dis pourquoi j'ai abandonné, et du coup ça vous fait un avis un peu tronqué. Mais ça explique aussi, quand j'ai parlé de Rollerdrome dans le dernier minibar, je sais que j'irai pas au bout, je sais pourquoi j'irai pas au bout, et ça ne m'empêche pas de livrer mon avis en disant bon, je n'ai pas été au bout, voilà, j'ai conscience d'abandonner le projet, je sais pourquoi j'abandonne le projet, je sais en quoi il pourrait plaire à d'autres. Voilà, maintenant je ne peux parler que de ça, et c'est bien acté. Alors que je sais que j'irai pas plus loin. Alors que si je m'éclate dans le jeu, autant attendre un mois. Bon, après, pour moi, c'est un peu difficile. Dernièrement, j'ai des avis à donner sur beaucoup de sujets qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. Et c'est vraiment des sujets. Je sais pas comment vous expliquer un peu. Je parle beaucoup tout seul. De toute façon, c'est le principe du microbar. Mais j'ai un peu ce syndrome de sujet de minibar, sujet de microbar. Alors, c'est pas que les sujets de microbar sont moins importants, on pourrait le croire, pas forcément. Mais c'est des sujets sur lesquels, par exemple, il y a des chances que je sois tout seul. Voilà. Ça déjà, si je sais que Mathieu et Maxime ont peu de chances d'y toucher ou de voir ou quoi que ce soit, je vais peut-être y aller dans un microbar tout seul. Ça, voilà, ça limite les interactions. Et puis après, il y a les choses que j'ai un peu moins aimées. Voilà, je vais peut-être pas... passer une demi-heure dans un mini-bar à vous citer tous les films nuls que j'ai vus récemment. C'est le sujet parfait pour un micro-bar, c'est vraiment nickel. Ça me fait un épisode pas facile, mais ça me fait un épisode pratique. Et en même temps, ça évite de prendre du temps dans un mini-bar. Mais, à contrario, je vais avoir des trucs que j'ai vraiment adorés et que j'ai envie de partager dans le mini-bar, parce que j'ai envie de donner envie aux gens de l'écouter, parce que bah, je sais que les mini-bars sont plus écoutés que les micros. Et parfois, un mini-bar, il n'y en a qu'un par mois, quoi. Et donc forcément, j'aime bien aller au podcast avec des sujets à peu près frais en tête pour rien oublier, même si j'ai des notes. Et j'aime bien en même temps, que les choses soient claires dans ma tête pour pouvoir les vendre le mieux possible, entre guillemets, de manière assez maladroite. Mais voilà, c'est l'idée. Donc il faut un peu trier comme ça, et là j'ai beaucoup de choses. Donc là, je vais vous parler de deux sujets qui auraient eu leur place dans un mini-bar. Mais les journées ne font que 24 heures, les mois ne font que 30, 31 ou dernièrement 29 jours, et les mini-bars ne sont qu'une fois par mois. On fait avec et on s'adapte, et bon, j'ai la chance, la charge, mais la chance de faire un podcast par semaine, donc ça me permet aussi de partager beaucoup, beaucoup de sujets. Et là, dans les émissions comme celle-là, vous voyez, il n'y a pas d'actu, mais l'introduction dure. Bah, je suis très content d'avoir le micro du micro-bar, même pas fait exprès, pour exprimer mes petites idées, pour pouvoir partager tout ça avec vous. On va donc passer tout de suite au premier sujet, la série télé, et puis ensuite on s'attardera un petit peu sur le jeu. Et je suis très content de pouvoir parler de ces deux sujets. Alors, je crois que ma voix part un peu moins en cacahuète que la semaine dernière, donc là, enfin, que juste avant. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Je crois qu'elle s'est faite à l'idée. Alors, on va parler d'une série télé, d'une licence même de série télé. Je ne sais plus si ce sont des adaptations. Donc, on ne va pas faire genre que j'ai cherché, même si je suis en train de le faire en direct, on ne va pas se mentir. Non, je vais vous parler de la saison 4 de True Detective. Saison 4 de True Detective qui est donc sortie là tout récemment et qui m'a pas mal attiré. Alors, elle est sortie au mois de janvier, ça a apparu sur les réseaux en janvier 2024 sur Prime Video, mais je crois que c'était sur le HBO Max ou un truc comme ça, sur Prime Video. Je sais dans quel abonnement je l'ai, mais c'est un peu le bazar. Ou c'est peut-être dans Prime Video, je sais plus. Très clairement, Prime Video, c'est tellement le bordel en fin de compte que dès que vous avez des abonnements, vous cliquez, ça s'allie et vous cherchez plus à savoir si c'est dans Prime, si c'est dans Wakanim, si c'est dans le truc avec Rick et Morty. Enfin voilà, il faut arrêter, c'est vraiment de la merde. Et on n'a qu'une envie, des fois, c'est de revenir au piratage. Bref, je vais pas dire de bêtises, mais voilà. Saison 4 de True Detective. Alors, True Detective, on va commencer directement par là. C'est une anthologie télévisée donc, qui avait été réalisée la première saison par Kari Fukunaga qui avait aussi réalisé au moins un James Bond, oui, Mourir peut attendre, en 2021. Il a récemment aussi, on en reparlera probablement, réalisé certains épisodes de Masters of the Air, donc la nouvelle série sur la Seconde Guerre mondiale, mais ça on en parlera. On en parlera prochainement, produite par Tom Hanks et Steven Spielberg. Kari Fukunaga donc, avait réalisé la saison 1 de True Detective. Saison 1 de True Detective, avec qui on avait au casting Matthew McConaughey, Woody Harrelson et Michelle Monaghan. Et puis ensuite, on a vu un enchaînement de séries, de saisons, pardon. Et j'avais vu ni la 2, qui m'intéressait pas trop, ni la 3, qui m'intéressait pas trop. Et je sais pas pourquoi, la 4 m'a bien branché. Parce qu'il y avait un contexte. Et un contexte, moi, qui a tendance à bien me plaire. Et donc, forcément, ça m'a bien attiré. Alors, True Detective saison 4, l'autre petit nom, c'est Night Country. Night Country. On va suivre donc deux inspectrices de police qui ne travaillent pas pour la même police. Une, la police locale, et l'autre, la police d'État. Donc, Liz Danvers, interprétée par Jodie Foster, et Evangeline Navarro. Celle qui est de la police d'État, interprétée par Kali Reis, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, toute l'histoire de la série, de la saison 4 de True Detective, c'est. On est dans la ville de. Ennis. Oh, j'ai perdu le nom de la ville, mais ça rend pas important. Bref, vous êtes en Alaska, et donc le principe de l'Alaska, vous avez vu certainement plein d'œuvres cinématographiques, des comics ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a une partie de l'année où on a une nuit polaire qui va donc durer plusieurs semaines. Parfois, on va avoir une toute petite heure de jour dans la journée, mais parfois, on va aussi, quand c'est le plus près des pôles, on va avoir aussi une nuit qui va être en continu. Juste au début de la nuit polaire, qui va s'avérer durer plusieurs semaines là où ils sont, il y a une station de recherche à côté de la ville, qui dépend donc de la ville, avec à l'intérieur 8 scientifiques qui effectuaient des recherches, et ces 8 scientifiques vont disparaître comme ça, guillemets, du jour au lendemain, mais de la nuit au lendemain plutôt, parce qu'il y a la nuit polaire. Et donc le principe, ça va être de chercher ce qui leur est arrivé, où est-ce qu'ils sont passés, comment ça se fait qu'ils ont disparu, parce que c'est un coin assez fermé. Là, on n'est pas dans une grande ville avec la possibilité de s'échapper et tout ça, c'est pas aussi facile. Et donc on est dans un milieu donc polaire assez difficile. Il fait froid, il neige, il fait nuit tout le temps. Donc il y a largement moyen d'installer un contexte compliqué Alors voilà, vous avez, je crois que c'était 30 jours de nuit, si je dis pas de bêtises, le comics adapté en film aussi, donc avec Josh Hartnett et des vampires qui traitent un peu de cette dynamique-là. Et moi, ce contexte-là, ce contexte polaire, nuit, continu, c'est un truc qui me plaît beaucoup parce que, non pas que j'ai envie d'y aller, mais je me dis, ouais, il y a un environnement qui est quand même bien pratique pour faire des histoires un peu cheloues. Et on rappelle aussi que voilà, d'entre détectives, il y a aussi un peu une idée de se dire, ok, on va essayer d'aller traiter des cas d'enquête un peu spécial, un peu pas paranormal, mais on ne sait pas exactement ce qui a pu se passer, c'est pas clair. Et voilà, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Il n'y a rien de clair. Et donc voilà, tout le principe aussi de la série, c'est ça en fait. C'est pas croire des choses, mais de vous faire traiter des cas bien particuliers. Et il y a un côté un peu paranormal dans la saison 4 de True Detective. Il y a un côté un peu paranormal et il y a un côté aussi, donc voilà, nuit polaire, ville un peu perdue, 8 personnes disparues, donc là on est vraiment sur 8 adultes qui disparaissent d'un coup sans raison. Donc il y a tout ça un peu qui vient créer une atmosphère dans la série. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je mets notes aussi pour pas oublier de dire quoi que ce soit, mais on est vraiment, voilà, déjà perdu dans l'environnement. Alors on a, donc c'est Ennis, le nom de la ville, voilà, petite ville qui est pas loin d'Anchorage, qui je crois est la capitale de l'Alaska. Mais Ennis, c'est une ville qui n'existe pas en vrai. Bon, j'ai pas vu la saison 2, la saison 3, mais j'étais intéressé par Jodie Foster. Très clairement, moi j'aime bien Jodie Foster et la voir dans une série. Dans le froid, avec des mecs qui disparaissent et tout, et tout le temps de nuit, parce que vraiment la série est quasiment intégralement de nuit. Ça commence au début de la nuit polaire, et après ça enchaîne, ça va vite. Et on va comme ça donc suivre un peu donc, ces deux enquêtrices qui se connaissent, mais qui sont plus vraiment potes. On sait qu'elles ont travaillé ensemble par le passé, mais il s'est passé des histoires qui font que elles ne sont plus vraiment, potes. Et voilà, on va comme ça suivre ces deux enquêtrices qui vont essayer de comprendre, donc surtout Jodie Foster qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé, et Evangeline Navarro, donc la collègue qui est originaire de la région, qui avait quitté l'Alaska, qui est revenue pour s'occuper de sa sœur qui a une maladie un peu type schizophrénie. Elle essaye de relier cette affaire-là des 8 personnes disparues avec l'histoire d'un meurtre d'une femme quelques années avant. Il n'y a rien qui indique que c'est lié. Et en même temps, finalement, au fur et à mesure, peut-être que c'est un peu lié, peut-être pas, peut-être que c'est un peu lié. Et voilà, tout le jeu, c'est ça en fait. Est-ce que ces personnages vont devoir travailler ensemble ou non ? Sachant que Jodie Foster, elle campe une enquêtrice, genre la chef de la police du coin, de la petite ville d'Ennis. Mais elle n'est pas très appréciée par ses collaborateurs. Elle n'est pas très, très appréciée même par sa direction qui l'a placée là, mais dans des circonstances un peu particulières. Elle ne parle pas hyper bien aux gens. Elle s'occupe d'une adolescente, mais on sent que ce n'est pas sa fille. Mais en même temps, elle la traite comme sa fille, donc c'est bizarre. Et en fait, on va découvrir aussi des choses sur le passé des personnages. Et qui ont toutes les deux un passif assez torturé, un passif commun torturé, un passif personnel torturé, voilà. Donc on est vraiment, voilà, c'est vraiment, si vous voulez, un bon état d'esprit. Si vous voulez des choses positives, ne regardez pas True Detective saison 4, mais c'est un peu l'idée des True Detective, c'est très clairement, on n'est pas dans de la bonne vibe, voilà. On est plutôt dans des trucs un peu compliqués. Et donc, toute cette ambiance parfaitement joyeuse et tout à fait festive, que nous offre True Detective saison 4, et avec tout ce cadre nuit totale, j'essaie de pas spoiler, mais un petit peu de paranormal, avec peut-être qu'on verrait pas des morts, peut-être qu'ils nous parleraient pas, on le sait pas trop, et en même temps il y a des trucs un peu gore parce que à un moment donné on va comprendre ce qui arrive à ces 8 personnes, et en même temps elles vont s'affronter, et en même temps dans la ville il y a une mine qui polluerait l'eau, qui ferait qu'il y aurait déjà eu un certain nombre de nourrissons qui seraient décédés. Vraiment, le contexte, il est compliqué. Vraiment, il est compliqué. Et en même temps, l'affaire n'a aucun sens. Quand l'affaire commence à se révéler un petit peu, à se détricoter, on trouve du sens, mais c'est pas clair. Bon, après, voilà, à la fin, il y a une réponse assez claire. Je suis assez surpris, mais je me suis vraiment beaucoup attaché aux personnages qui sont pas toujours sympathiques. Mais je les trouve mal. J'ai souvent du mal à m'attacher à des personnages qui ne sont pas vendus comme étant sympathiques parce qu'ils ont toujours leurs défauts et tout ça. Par exemple, dans Vermine, dont on avait parlé avec Mathieu, moi, je trouvais le personnage principal qui, certes, on ne l'avait pas vendu comme quelqu'un de sympathique, mais il avait certainement des bons côtés. Mais moi, il ne m'avait pas du tout plu. Je l'avais juste détesté. Et bah là, dans True Detective saison 4, désolé, mais les deux personnages principaux, alors peut-être qu'on a un peu trop vendu leurs problèmes personnels ou leurs difficultés, voilà, tout ça. Mais je me suis quand même attaché à eux et j'ai quand même compris pourquoi c'était des cons. Ou des connes, en l'occurrence. Parce qu'elles sont souvent un peu traitées de connes par leur environnement ou par... même par moi qui les regarde et qui me dit « Mais pourquoi tu réagis comme une conne, là ?» Mais voilà, on est un peu attaché à ces gens-là, même si leurs réactions ne sont pas toujours hyper logiques, même si leur façon de traiter les gens avec qui ils sont ne sont pas toujours hyper gentilles. Ou juste, mais ça se comprend. Voilà. Moi, j'ai réussi à le comprendre. Et voilà, on essaye comme ça de suivre un peu l'enquête, et au fur et à mesure, c'est un peu ce qui me reste de True Detective saison 1, c'est que... Putain, où on va, quoi? Est-ce qu'on va vraiment dans cette direction-là? Et c'est toute l'idée de tout ça. J'ai aussi bien aimé Kelly Reis, je sais pas si je le dis bien, qui est donc la deuxième actrice, qui elle, à la base, pas une actrice. C'est pas vraiment une actrice en soi, parce qu'elle était boxeuse par le passé. Et donc, du coup, ah bah tu vois, je dis pas de bêtises. C'était une autochtone. Voilà, donc je pense que c'est les gens qui viennent d'Alaska à la base. Mais voilà, donc à moitié autochtone, c'est ça. Donc, c'est intéressant. Amérindien, autochtone, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc les autochtones, c'est donc ceux qui viennent à la base d'ici. Donc c'est les Alaska natives pour les autochtones d'Alaska. Donc elle, c'est une native d'Alaska. En faisant mes recherches, je trouve les termes appropriés. Tant mieux. Et donc elle est boxeuse à la base. Elle a fait de la boxe anglaise. Et récemment, donc elle a un peu percé dans le... Enfin, à la télé, on va dire. Depuis 2021, elle tourne des trucs. Elle va jouer dans une prochaine adaptation de... une suite du film de Wine River de Taylor Sheridan. Elle a un petit rôle aussi dedans. Donc on va la voir de plus en plus. Elle a un physique bien taillé, assez sportif. Et donc du coup, elle tranche un petit peu avec Jodie Foster, qui est plutôt la petite dame. Hein, voilà, Jodie Foster, elle est... sans lui manquer de respect, elle est plutôt jeune maintenant. Et donc c'est vraiment la... Elle est pas grande, elle est âgée, elle est blonde, elle est antipathique, et donc on est vraiment dans la... Elle interprète vraiment une enquêtrice de 50 ans qui n'est pas du tout adaptée au lieu, assez antipathique, à côté de, du coup, l'enquêtrice plus rude physiquement. Il y a celle qui est rude plutôt niveau attitude, et l'autre qui est rude plus physiquement, qui ne va pas se laisser faire. On sent que si on la chauffe un peu, on va se prendre une droite. Et donc, du coup, on a voilà, ce duo qui n'en est pas vraiment un, mais qui nous a imposé comme ça avec leurs difficultés entre elles aussi. Et donc, moi, j'ai trouvé cool, du coup, cette actrice. Déjà, elle a sa place là, parce que c'est une native d'Alaska. Elle a des origines, en tout cas, native d'Alaska. Et il y a tout aussi un truc de réappropriation du territoire, avec, par exemple, le nom... elle a un nom d'origine de sa population qu'elle ne connaît pas parce que sa mère lui a jamais donné, et ça joue beaucoup dans son appropriation de sa culture. Il y a toutes ces choses là aussi qui rentrent en ligne de compte. La fille adoptive de Jodie Foster aussi, donc qui est une native. On sent que Jodie Foster s'était mis en couple avec un natif d'Alaska. C'est beaucoup plus facile quand on a les mots de parler des choses. J'essaie je spoil quasiment rien, mais voilà, on a tout ça aussi. C'est une gamine de 17 ans qui est homosexuelle. Donc on sent qu'elle a un peu de mal déjà à trouver sa place vis-à-vis de sa sexualité, mais c'est encore, c'est à peu près assumé, ça va. Mais en même temps, sa mère, Jodie Foster, l'empêche un peu de trouver sa place vis-à-vis de ses origines autochtones. Et du coup, c'est un peu compliqué entre elles aussi vis-à-vis de ça. Voilà, et puis il y a aussi l'adjoint de... Enfin, un genre d'adjoint de Jodie Foster qui est un peu aussi soumis... Enfin, c'est... Ouah, c'est tordu, il se passe plein de choses. Franchement, si vous avez 6 heures devant vous à l'occasion de répartir en 6 fois 1 heure, à peu de choses près, allez-y. True Detective saison 4, c'est vraiment, vraiment sympa. C'est un environnement, un contexte géographique et climatique qui me plaît beaucoup, donc forcément... J'y suis allé avec beaucoup d'envie. Et du coup, ça m'a un peu branché d'aller voir les deux autres saisons de True Detective que j'avais pas vues. Donc, je vais essayer de voir où c'est dispo. Parce que, j'aime bien, quoi. Franchement, True Detective, j'avais un très bon souvenir de la 1. J'ai bien aimé la 4. Donc, il y a peut-être moyen de bien aimer la 2 et la 3. Mais allez-y, sur True Detective saison 4. Bonne série d'enquête. Bon contexte. Et bons acteurs aussi. Et ça, c'est très, très cool. Voilà, maintenant, ça reste quelque chose clairement adulte, violent, même si toute la série n'est pas violente, il se passe des choses quand même un peu violentes, mais rempli de personnages absolument pas manichéens, hein. Ça c'est très intéressant. C'est pas toujours tout blanc ou tout noir, et surtout de personnages extrêmement détestables, qu'on les considère comme des gentils ou comme des méchants, et ça aussi c'est agréable parce que je suis certainement très gentil, mais je suis aussi certainement très détestable. Donc, il y a une forme de réalisme dans cette bizarrerie qu'est la saison 4 de True Detective. Voilà, donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Et s'il y a une saison 5 qui se passe dans un champ de roseaux, j'en serai. Et avec cette émission placée sous le signe des enquêtes, des jeux d'enquête, des séries policières, donc, vraiment dans la dynamique parfaite, on va dire, on va continuer. Bon, là, on est sur un sujet qui est nettement moins surprise. Bon, l'autre était dans la description. Mais là, c'est vraiment l'image de la pochette du podcast. Puisqu'on va parler de The Case of the Golden Idol, un jeu dont vous avez certainement entendu parler, auquel vous n'avez probablement pas joué. Mais vous en avez au moins un peu entendu parler, parce que c'est un jeu qui est sorti donc en 2022, fin d'année 2022. C'est un jeu qui va avoir une suite. Qui va être proposé par Netflix, je crois, qui s'appellera The Rise of the Golden Idol. Donc on a encore The Golden Idol, on peut se dire qu'il y a certainement, une histoire de suite dans l'idée. Mais là, on va parler vraiment du premier, qui est donc sorti sur Switch et PC. Voilà, je vois que c'est sorti sur Switch, je ne savais pas. Je suis agréablement surpris. Mais voilà, donc The Case of the Golden Idol, qui est donc sorti sur Switch à 18€, et qui est donc une petite pépite, mais qui a un gros défaut. Ça, on va tout de suite le déflorer, tout de suite. Le jeu est exclusivement en anglais. Pas de trad VF. Probablement pour The Rise, une trad VF, vu que c'est Netflix derrière, mais... Pour The Case of the Golden Idol, il n'y a pas de VF. Donc là, vous dites, bon, Flavien, t'arrêtes pas de nous dire que t'es fort en anglais, tu l'as fait en anglais. Bon, non, je ne l'ai pas fait en anglais. Donc là, vous dites, bon, Flavien, tu dis que le jeu il est exclusivement en anglais, que t'es nul en anglais, mais que tu ne l'as pas fait en anglais. Comment t'as fait? Bon, alors voilà. J'ai trouvé un patch VF sur les internets. Et je me suis dit, bon, c'est bon, on va tenter. On va le récupérer, on va installer, et si le patch VF marche et qu'on a le jeu en français, on va le garder, on va le faire. Parce que c'est un jeu qui avait quand même été vraiment, vraiment bien critiqué, vraiment soutenu, fin d'année 2022, dans certains tops d'ailleurs. Beaucoup de gens avaient dit « Ouais, franchement, c'est un super jeu, c'est trop, trop bien et tout. » Et j'avais été refréné par le fait que le jeu était en anglais, donc je m'étais un petit peu réfréné dans mes envies en me disant « Bon, tant pis, je parle pas anglais, je vais faire une croix dessus. » Et il s'avère que ce patch VF m'a permis de mettre la main dessus. Le jeu est développé par un studio letton qui s'appelle Color Grey Games. Et donc, il est sorti octobre 2022, PC et Nintendo Switch. Donc, ça, on est bien. Et ça vaut 18$, 18€. Et sur Steam et sur l'eShop. D'ailleurs, c'est un jeu qui est au même prix sur l'eShop que sur Steam. C'est une très bonne surprise. Alors, Je vais essayer de faire bref, parce que j'ai pas envie de vous endormir, et puis j'ai envie de vous donner envie aussi de jouer à The Case of the Golden Idol, ou alors du moins à vous vendre l'intérêt de The Case pour que vous alliez sur The Rise. Qu'est-ce que c'est que The Case of the Golden Idol? Donc c'est un jeu exclusivement en anglais d'enquête, et donc qui va nous faire suivre une histoire, une continuité d'histoire, qui va être reliée à chaque fois par le fait d'un idole doré, une petite statuette dorée qui aurait des pouvoirs, et qui va créer incident sur incident, mort sur mort, et probablement meurtre sur meurtre. Voilà, grosso modo. Et donc, toute l'idée, ça va être de fouiller des tableaux. Le jeu va être en deux étapes, mais l'étape principale, ça va être de fouiller des tableaux. Donc, vous allez avoir des tableaux. Souvent, vous allez avoir au début un seul tableau. Donc, il va falloir... vous pouvez activer ou non des champs de cliquables. Mais si vous les désactivez, bah, vous avez vraiment une image nette et il va falloir faire un peu du pixel hunting, chercher les pixels pour ça vous devez cliquer, mais sinon vous pouvez activer des affichages pour vous dire où faut cliquer, où vous pouvez cliquer sur ce tableau. Donc vous allez avoir ce tableau avec des personnes, souvent un ou plusieurs cadavres, ou une situation avec un mort en devenir en tout cas, et il va falloir comme ça fouiller l'image pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, le premier cas de The Case of the Golden Idol, c'est très simple. C'est le plus simple d'ailleurs, et c'est pas compliqué. Vous avez deux personnages. On va dire que c'est simple, c'est deux personnages. Il y en a un qui pousse un autre du haut d'une falaise. Et donc, l'idée, c'est, ok, je vais cliquer sur la tête de machin, ça va me donner un message. Quand je vais cliquer sur la tête de machin, je vais voir ce qu'il a dans ses poches. Et puis après, hop, je vais cliquer sur la tête de l'autre qui se fait pousser. Donc, j'ai l'assassin, j'ai celui qui se fait pousser. Ok, je vois que lui, il a ça dans ses poches et que ça dit tel message, d'accord. Il y a une tente à côté d'eux, donc hop, je vais aller fouiller dans la tente, je vais avoir un sac, je vais fouiller dans le sac. Je vais avoir un genre de feu de camp, je sais plus, je vous dis un peu, voilà, je vais fouiller là, et puis je vais fouiller ici, et puis dans le décor, un peu au loin, il y a une information, donc je vais fouiller là, ok. À chaque fois que je vais cliquer sur quelque chose d'important, donc soit un objet, soit un mot, par exemple, il y a une lettre, il y a des mots dans cette lettre-là qui sont soulignés, ça va me garder ces mots dans un champ qui est en bas de l'écran. Et je sais d'ores et déjà, au début où je suis sur le tableau, que je vais devoir trouver 20 mots. Donc dès que je clique, j'ai 20 mots, j'ai un mot, deux mots, trois mots, bam, puis à un moment donné, je suis à 18 mots. Donc je sais qu'il me manque encore deux mots à chercher, donc je peux continuer à fouiller. Puis quand j'ai trouvé mes 20 mots, là, je sais que j'ai techniquement toutes les informations pour résoudre le puzzle. Et là, je passe en mode, non plus observation, mais en mode investigation. Donc je change en cliquant sur au milieu de l'écran, juste au-dessus du bandeau des mots. Je vais passer en mode investigation. Et donc le mode investigation, c'est littéralement que résoudre ce qu'il s'est passé. Et donc résoudre ce qui s'est passé, c'est utiliser les mots qu'on a récupérés dans la phase d'observation et les placer soit dans des phrases, soit si c'est des noms à côté des têtes des gens, un genre de trombinoscope, pour comprendre ce qu'il s'est passé, ce qui s'est déroulé. Par exemple, pour revenir au cas numéro 1, vous avez deux personnages, vous avez deux noms, je crois, de tête. Et donc, il va falloir trouver, avec des lettres, avec des citations, avec ce qu'ils ont dans les poches, qui est qui. Et donc, en identifiant, bah, par exemple, que la personne qui est en train de tomber, c'est lui, et en identifiant que la personne qui est en train de pousser, c'est l'autre, et bah, on va pouvoir déjà résoudre une partie du puzzle. Et en identifiant qui est qui, je vais pouvoir identifier donc la partie la plus difficile, c'est-à-dire un genre de résumé de la situation. Parce qu'en fait, dans chaque tableau, vous allez avoir donc cette partie d'investigation qui va être divisée en plusieurs sous-parties. Vous avez toujours sur la partie gauche, quasiment toujours, un texte qui va résumer la situation. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, machin a tué lui, bidule a fait ça. Donc, vous avez cette partie-là. Et vous avez sur la partie centrale, la plupart du temps aussi, un genre de trombinoscope avec une photo, enfin une incrustation de chaque personne. Et donc vous avez les têtes de tout le monde. Et en fouillant, vous allez trouver les noms, plein de noms dans les recherches. Et il va falloir dire qui est qui. Quand vous avez tout faux, ça ne vous met rien. En tout cas, quand vous avez tout rempli, que vous avez tout faux, ça vous met que vous avez tout faux. Et à partir du moment où vous n'avez que deux erreurs, ça vous met il y a deux erreurs. Donc là, vous savez que vous êtes vraiment plus très loin. Et quand tout est bon, ça vous verrouille les mots dans la partie que vous avez validée et ça vous les retire du bandeau du bas. Mais c'est potentiellement quand même des mots que vous devrez utiliser dans les autres parties. C'est juste qu'ils sont retirés du bandeau du bas et qu'il faudra aller chercher dans la partie que vous avez déjà remplie. Le fait est que chaque mot va avoir une couleur à elle, elles sont toutes encadrées. Vous avez par exemple les verbes en gris, si je dis pas de bêtises, ou en bleu. Vous avez des mots en bleu, vous avez des mots en gris, vous avez les noms en orange, je crois, ou orange. Et donc en fait, bah, chaque typologie de mots a une couleur, histoire de savoir exactement ce qu'on utilise et où on l'utilise. Et donc voilà, toute l'idée, c'est de placer les bons mots aux bons endroits pour comprendre la situation. Et donc en général, on essaie de savoir qui est qui, ce qui permet tout de suite de résoudre d'autres problèmes. Mais vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, dans le premier cas, il faut identifier où sont les personnages. Donc on essaie de savoir, par rapport à l'île qui est là-bas, ils sont à tel endroit. Donc il faut essayer de localiser l'endroit où ils sont. Ça, c'est un des trucs à faire. Vous avez un autre cas d'enquête où vous allez avoir... Il y a un cas d'enquête où vous allez avoir un plan de table. Vous avez des gens qui étaient à table au moment où il y a eu un décès. Et donc, il va falloir identifier chaque personne dans la partie centrale. Mais dans la partie droite, on va aussi avoir besoin d'identifier qui était assis où. Donc, en fouillant dans la partie investigation, il va falloir chercher qui boit quoi, qui mange quoi. Ok, qui a demandé à être assis à côté de qui. Ok, et donc en fouillant tout ça, vous arrivez à déterminer qui était assis où. Et donc, quand vous avez tous ces éléments-là et que vous savez qui est qui et qui est assis où, vous pouvez probablement deviner qui a fait quoi. Et tout le principe du jeu, c'est ça. En fait, tout au long de l'histoire, c'est ça. Vous passez d'un cas après l'autre et vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Et on va suivre une famille, on va dire, dans l'histoire, qui va se léguer ce fameux Golden Idol et ce que va créer le Golden Idol et ce qu'il va provoquer. On va comprendre un peu comment il fonctionne et on va comprendre un peu ce qui va motiver les gens à se battre ou non, d'ailleurs, pour le Golden Idol. Et voilà tout le principe du jeu. Alors après, voilà, vous avez une ambiance sonore qui est très agréable, que vous avez des musiques qui reviennent régulièrement, mais que vous pouvez couper facilement. Sur l'ambiance sonore, il n'y a pas grand-chose à dire. Graphiquement, il y a plus de choses à dire. On ne va pas dire que c'est beau, mais on va dire que la DA, elle a un style très particulier. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur la pochette. Et allez voir des images sur Internet. Mais de toute façon, The Rise of the Golden Idol, l'épisode 2 qui est annoncé, édité par Netflix, est dans un peu la même veine, en fait. C'est vraiment... graphiquement, c'est un truc, hein, direction artistique, c'est spécial. Voilà, c'est spécial. Moi, je trouve ça agréable. Je trouve ça sympa parce que ça fait un truc un peu particulier. Un côté un peu dessiné, en même temps un peu déformé. Mais voilà, c'est très clair. Et dans le cadre d'un jeu d'enquête, il n'y a pas besoin d'avoir un truc hyper beau. Au contraire. Ça passe bien, il y a une direction artistique, il y a une patte graphique qui est là et on reconnaît bien. Et en même temps, quand on voit les personnages, on ne sait pas vraiment s'ils ont une tête de gentil ou de méchant. Donc on est toujours un peu perplexe sur ce qu'on voit, ce qu'on comprend. Donc je trouve que ça fait le taf sur l'idée du jeu. Il y a une histoire, je vous disais, voilà, il y a une histoire qu'on va suivre au fur et à mesure, mais on ne va pas la spoiler plus que ça. Sur The Golden Idol, il y a deux DLC qui poussent un peu plus loin l'histoire qu'on a abordée dans le jeu. J'ai pas encore fait les DLC, je parlerai probablement des DLC dans un micro-bar plus tard. Mais voilà, c'est un jeu vraiment, vraiment très agréable. C'est un jeu très tranquille. C'est un jeu sur lequel on va quand même se casser un peu la tête. Et en même temps, c'est un jeu qui... Bon, à la fin, ça commence à être un peu tordu, hein. Très clairement, les derniers niveaux sont bien, bien chauds. Mais il vous prend pas pour un idiot. Et en même temps... Quand on a réussi un truc et qu'on a réussi à déterminer des choses, et parfois on va pas se mentir, on essaye un peu de... On change 2-3 mots par-ci par-là et bim, on arrive à... Par exemple, dans le trombinoscope, si je sais que j'ai 2 erreurs, bon, j'ai peut-être inversé 2 prénoms, ou alors j'ai peut-être inversé juste un nom. Voilà, ou quand je décale, bam, je sais que j'ai 2 erreurs, oh là, je sais qu'il y a un truc qui... Et donc des fois, je vais pas forcément réfléchir, je vais peut-être plus jouer avec les assemblages que j'ai faits, donc je vais tomber un peu en mode... J'ai un peu forcé le truc, quoi, vous voyez, c'est un peu du brute force, limite en piratage, quoi, vous voyez, j'ai un peu titillé le système pour trouver la réponse et j'ai un peu forcé le truc, mais c'est un jeu d'énigmes qui vous prend pas pour un idiot et en même temps qui vous fait sentir très malin quand vous avez fini. Alors j'ai jamais fait au Bradin, moi, parce que aussi il était exclusivement en anglais et que Ah, je suis un bon gros chauvin quand même. Non, c'est juste que j'ai la flemme de jouer en anglais, mais là, voilà, comme il est en VF et que la VF était quand même pas trop mal, je reviendrai dessus. C'est bien passé et je me suis souvent senti plus malin que je ne le suis, donc c'était vraiment très très cool. Il y a un système d'indices dans le jeu qui est pas trop mal fait parce qu'ils sont accessibles, mais pas trop. En même temps, on n'a pas envie de lancer des indices, on n'a pas envie de se dire oh, tiens, je vais ouvrir les indices, parce que des fois on se dit ça se trouve, je passe à côté de pas grand chose quoi. Et quand vraiment on commence à être bloqué, on se dit bon, je vais aller regarder les indices, on sait jamais. Là, le jeu vous demande de mériter vos indices. C'est-à-dire qu'il va vous mettre des têtes, des objets, des têtes de personnes, des objets, et il va vous demander d'identifier chaque chose. Mais il peut vous demander la tête d'un personnage que vous avez vu il y a 3 chapitres. Donc, vous ne vous rappelez plus vraiment de son nom. Et donc, en fait, vous allez comme ça devoir... Ou d'un objet qu'on a vu il y a 4 chapitres, et c'est plus vraiment clair dans votre tête, vous voyez. Mais le problème, c'est que si vous faites trop d'erreurs à cette identification d'objets et de personnages, vous n'avez pas accès aux indices. Donc, les indices se méritent, il va falloir réfléchir, il va falloir fouiller un peu dans sa mémoire. Moi, le jeu, je l'ai fait pas en une traite, mais je l'ai fait quand même de manière assez rapprochée, donc ça allait. Mais si on le fait de manière un petit peu détachée, il s'y prête parfaitement, ça peut être compliqué. Donc déjà, il faut mériter son indice. Et ensuite, il faut mériter, il faut poser des bonnes questions aux indices, parce que vous avez plusieurs thèmes dans les indices à trouver. Donc il faut fouiller, il faut faire ça. Et des fois, ça va plus vite de se creuser la tête que d'aller fouiller dans les indices et de trouver les réponses. Donc ça fait partie des trucs un peu importants à mettre en parallèle de la recherche. Des fois, c'est plus facile d'aller chercher la réponse que d'aller chercher les indices. Donc c'est bien fait, parce qu'on peut y aller chercher, mais moi ça m'est arrivé de me faire chier à aller chercher un indice, de m'embêter, pardon, et finalement d'aller dans le mauvais thème et d'avoir des réponses que j'avais déjà. Et donc je viens de perdre 5 minutes pour rien, donc c'est dommage. Et en même temps, je me suis dit, bon, si j'avais réfléchi, peut-être que j'aurais cherché le meilleur indice, ou peut-être que j'aurais juste mieux cherché. Donc voilà, le jeu est vraiment vraiment très très cool, c'est posé, c'est tranquille, vous pouvez y jouer, c'est pas exigeant, donc vous pouvez largement y jouer, alors la souris c'est très bien parce que vous allez cliquer à plein d'endroits et déplacer des mots, mais c'est un jeu aussi qui se prête parfaitement au smartphone. Enfin, l'écran va peut-être être un peu petit, mais sur une tablette ce serait parfait, et vous pourriez très bien sélectionner un mot avec votre doigt et le placer à un endroit, donc ça se prêterait parfaitement à un jeu de tablette. Moi j'ai hâte de jouer à The Rise of the Golden Idol, donc le numéro 2 qui va sortir courant 2024 sur mon iPad avec Netflix, c'est parfait. Franchement, c'est nickel. Donc voilà, le patch VF, pour ceux qui voudraient jouer sur PC, il est très bien. Il est très bien, sauf à un ou deux endroits où moi, j'ai à un moment donné, sur une des enquêtes, il a fallu que j'aille aller chercher un walkthrough de The Case of the Golden Idol, donc en anglais, en l'occurrence, voilà, pour comprendre, en fait, qu'il était un peu mal traduit et j'avais bien compris la situation, mais que le patch me bloquait. Et donc j'ai dû forcer avec déjà un peu du brute force de machin, et en même temps avec ce qui était réalisé en anglais. Maintenant que j'avais identifié la situation en VF, c'était à peu près facile, et en fait la phrase n'avait pas vraiment de sens en VF. Mais on sentait que, je sais pas, soit il fallait qu'il place les mots à tel ou tel endroit, ou qu'il fasse des trucs, enfin c'était pas hyper clair, et du coup là j'ai dû passer au-delà du patch parce que c'était pas hyper confortable et du coup ça me bloquait. Vraiment j'étais bloqué par le patch, mais sinon sur tout le reste du jeu c'était hyper confortable et c'était vraiment bien traduit, donc voilà, il y a quand même des patchs FR de très bonne qualité, donc j'ai été bloqué à un endroit, mais maintenant avec internet c'est relativement facile. Vous faites walkthrough tel jeu. Si vous êtes sur des jeux indés, en général, il y a des gens qui les font d'une traite sur Internet. Vous savez, des vidéos de 4, 5, 6, 7 heures. Tu vas chercher vite fait où t'es sans trop te faire spoiler. Tu vas pas trop vite. Et puis, tu trouves où t'es. Tu cherches vite fait. Tu dis, ok, mais c'est ça qu'il me demandait. Et j'ai mis du temps, par contre, sur ce patch FR, là. J'ai mis beaucoup de temps, moi, de mon côté, à comprendre ce qui était demandé. Et à comprendre que j'avais bien compris, mais que c'était le patch qui déconnait. Parce que pendant un temps, je me disais, mais en fait, j'ai rien compris. J'ai été voir le walkthrough parce que vraiment, j'étais bloqué. Je me disais, je suis trop bête. Vraiment, là, laisse tomber le jeu, Flavien, t'es trop con. Va te taper la tête contre un mur, laisse tomber. Et en fait, non, c'était le patch qui me bloquait. Donc ça va, je suis pas si bête, mais je suis pas non plus un grand génie. Mais voilà, The Case of the Golden Idol. Si vous avez l'occasion, si vous aimez les jeux d'enquête, si vous parlez anglais, ça peut être parfois un peu du anglais un peu compliqué, parce qu'on va très très loin dans le passé, on revient, mais on est vraiment à des époques où il n'y a pas de voiture. On est un peu dans un style un peu Angleterre. C'est jamais vraiment bien précisé, mais... Vous savez, vous êtes un peu à l'époque encore du début de la démocratie, on va dire. Il y a un moment donné, il y a des gens qui vont sans trop spoiler, qu'ils vont essayer de manipuler des votes et tout ça, donc c'est assez intéressant. Il y a un côté un peu politique, il y a un côté... Des fois, tout n'est pas clair, et puis d'un coup, un chapitre après, on comprend ce qui s'est passé. Donc c'est assez intéressant, et on passe un bon moment là-dessus, il y a plein de petits délires. Franchement, c'est un jeu très très agréable, et c'est un jeu parfait quand on a envie de se poser, qu'on n'a pas envie de faire un jeu d'action ou un truc hyper speed. Voilà, là on se pose, je vais récupérer Ghost Rick et puis je vais essayer aussi de faire un peu ce truc d'enquête. Je suis un peu en mode jeu d'enquête, je vais peut-être même récupérer les jeux d'avocat, les Phoenix Wright. Ils sont souvent en promo sur Switch parce que j'ai envie de petits jeux comme ça, on est posé, on enquête, on farfouille, donc voilà. The Case of the Golden Idol, si vous avez ne serait-ce qu'un petit peu le goût de l'enquête, de la fonction policière, de la fonction détective, n'hésitez pas, c'est de grande qualité, et si vous n'avez pas envie de jouer en anglais, gardez-vous dans un coin de la tête The Rise of the Golden Idol, qui sortira donc courant 2024 et qui pourrait vous plaire et qui pourrait vous permettre comme ça de passer du bon temps. Je vous remercie d'avoir écouté ce long épisode, il n'y avait que deux sujets et pas d'actu, et pourtant l'épisode dure plus de 40 minutes, enfin limite 50, avec la conclusion que je vais faire prochainement. Nous, on se retrouve lundi prochain. Pour un micro-bar. J'espère que je vais passer une bonne semaine à Prague et que j'aurai plein de choses à vous raconter. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter, X, et même Blue Sky, et peut-être même un jour Threads, le Twitter de Instagram, de Facebook. Voilà, peut-être même un jour sur WhatsApp. Non, je rigole. Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, et donc j'ai hâte que vous puissiez voir l'épisode 3 du Frigo du Rétro, qui, je crois, la dernière bande-annonce disait juillet 2024. Voilà, si Mathieu écoute le podcast, il va me détester, mais j'ai envie de faire une blague. Nous, on se retrouve donc lundi prochain, n'hésitez pas à nous faire nos retours, vous les avez eus. N'hésitez pas à nous faire vos retours, et surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous avez vu ou joué au sujet de cette émission, ce que vous en avez pensé. Nous faire des petits messages, de dire « Ouais, je suis pas d'accord. Franchement, Flavien, t'es un génie. J'aurais pas pu en parler mieux que ça. N'arrête pas les podcasts. C'est pas prévu, t'inquiète, mon pote. Tu peux te détendre. Je vais être là encore longtemps. » Allez, bonne semaine à tous. À lundi prochain. Et couvrez-vous. Il fait encore un petit peu froid. Salut !